La plus grosse galère, c'est le jour où on m'a dit que pour vendre de l'assurance, enfin en tout cas pour avoir un produit d'assurance, il fallait que j'aie un diplôme, un master 2 en commerce ou en finance. Et donc il a fallu que je fasse une VAE en plus de ma boîte et de mes 3 enfants.
Donc tu l'as fait, toi tu l'avais pas partagé, c'est intéressant, t'as
Non.
fait ça aussi en plus. Bonjour à tous, c'est Julien Hatton et bienvenue dans Comment t'as fait, le podcast qui vous fait gagner des années d'expérience entrepreneuriale. Si vous êtes entrepreneur ou souhaitez le devenir et que vous cherchez à comprendre comment celles et ceux qui entreprennent ont fait, ce podcast est pour vous. C'est parti! Bonjour à toutes et tous pour ce nouvel épisode du podcast Comment t'as fait les rencontres d'entrepreneurs. J'ai le plaisir d'accueillir Laure Courty, fondatrice de Warecito et JoStock, deux sociétés de logistique et stockage, l'une à destination du B2C et l'autre du B2B. Salut Laure.
Salut Julien.
Alors Laure, quand on a préparé ensemble cet épisode, tu m'as dit écoute, c'est très simple, pour résumer, je n'ai pas fait les bonnes études. Quand je me suis lancé, j'étais une femme. Enceinte, sans réseau, pas d'expérience dans la tech, victime d'un accident de ski qui m'a fait perdre une bonne partie de ma mobilité. Je ne cochais pas les cases et pourtant je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Alors on a plein de choses du coup à évoquer, moi ça m'intéresse et j'ai plein de questions pour toi. Dans cet épisode, ce qu'on va aborder, c'est comment t'as fait pour passer de l'édition à entrepreneur dans la tech, comment t'as fait et comment tu fais pour gérer deux sociétés en même temps, alors en termes de délégation, en termes de rentabilité, comment tu switches aussi intellectuellement dans ta journée, ça m'intéresse. Et puis ensuite, quelle est ton ambition et le plan pour la suite. Ok pour toi?
Ok, super.
Eh bien écoute, c'est parti. Laure, est-ce que déjà tu peux te présenter de manière libre en 2-3 minutes?
Alors, je viens de Bordeaux, je suis une ancienne parisienne, donc j'ai passé plus de 30 ans à Paris. Et ça fait une dizaine d'années que je suis installée avec ma petite famille à Bordeaux. J'ai 3 garçons. Et voilà, et j'ai monté donc 2 sociétés, comme tu viens de le dire, qui sont à Bègles, exactement, dans
D'accord.
les anciens locaux de DDP, cette marque qui parlera à ceux de notre génération. Voilà.
Alors, on a un peu de tout en termes d'âge qui écoute ce podcast, donc effectivement, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais...
En tout cas, à la génération des plus de 40 ans, parce que j'ai plus de 40 ans.
Ouais. Ok. Écoute, merci pour cette présentation libre. J'ai plein de questions pour toi. Moi, ce qui m'intéresse dans cette première partie, c'est qu'on arrive à comprendre qui était cette Laure qui décide à un moment donné de se lancer dans l'entrepreneuriat, donc d'arriver à comprendre d'où tu viens, quel a été ton parcours. Ton diplôme aussi. Et puis, si tu avais autour de toi des personnes liées de près ou de loin à l'entrepreneuriat, qu'on fait qu'à un moment donné, ça t'a permis d'avoir ce déclic et de te lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Alors, si on revient du coup un peu en arrière, toi, comment tu commences tes études? Tu te diriges vers quoi et pourquoi?
Alors déjà, je ne me dirige pas du tout vers là où on m'attendait, puisque j'ai plutôt une famille dans le médical. Ils sont chirurgien-dentiste, infirmière, sage-femme. Bref, tout le monde a fait là. Voilà. Et moi, je suis nulle en maths. Je suis vraiment nulle en physique-chimie. malgré tous les efforts de mon père, ça ne fonctionne pas du tout.
D'accord.
Et donc, je m'oriente logiquement vers des études plutôt littéraires. Et donc, l'option numéro 2 pour pas trop décevoir la famille, c'est le droit. Donc, je commence par une fac de droit.
D'accord.
Je tiens 3 mois. Donc, je suis major de ma promo après les premiers partiels. Et puis,
Mais ça te plaît pas.
Un jour, j'ai un prof qui me dit « Vous n'êtes pas là pour réfléchir, vous êtes là pour apprendre. » Et je
D'accord.
me dis « Oh là là, je vais pas passer 5 ans à apprendre des trucs par cœur. Je vais jamais y arriver.
Okay.
C'est impossible. » Et donc, je pars à l'étranger. Je vais faire jeune fille au pair. Je me dis, donc je vais d'abord à Londres et puis après à New York. Et je rate l'inscription à la fac de la Sorbonne. Et donc je me retrouve à Paris 8, à Vincennes-Saint-Denis, en LEA. Pas parce que je l'ai choisi, mais parce qu'il n'y a plus que ça qui.
Donc c'est les langues étrangères
ouais,
appliquées,
c'est
ça. Ouais. Ok.
Donc c'est pas vraiment un choix, en fait, c'est un peu par défaut. Voilà, il reste une place, ils m'ont prise. Et voilà, donc j'ai été jusqu'à faire une maîtrise en LEA. Et puis, je suis une grande passionnée d'escalade. Donc, je fais beaucoup, beaucoup d'escalade. Donc, ça m'occupe toute ma vie, toutes mes soirées, tous mes week-ends.
T'es souvent à Fontainebleau?
Ouais, je suis beaucoup à Fontainebleau, beaucoup aussi à Marseille, parce qu'ils ont lancé le TGV en 3 heures, donc je descends dans les Calanques quasiment tous les week-ends.
C'est sympa de faire l'escalade.
Ouais, c'est pas mal. C'est chouette, c'est beau paysage. Surtout quand on a un petit bungalow à Sormiou à disposition. Donc je fais énormément d'escalade et je suis prise en Master 2 à la Sorbonne en journalisme bilingue. Donc c'est assez select. Enfin, j'ai l'impression que côté paternel, il y a une sorte de reconnaissance.
Ce que tu fais.
Ça y est, elle va faire un truc bien. Hein. J'ai, avant de rentrer dans ce Master 2, à l'époque, ça s'appelait un DESS.
DESS, ouais, de Master. Voilà. Oui, alors pour les plus jeunes qui nous écoutent, effectivement, oui, excusez-moi, t'as fait un bac qui n'est pas le nom des bacs d'aujourd'hui.
Non, j'ai fait un bac L.
Ouais.
Voilà. Et donc je passe une heure avec un enseignant qui est un enseignant de Sciences Po qui va enseigner dans ce master. Et là, je me dis, c'est la cata et en fait, ils vont me mettre dans une boîte. Mmh. C'est pas possible. Et donc, je n'y vais pas. Je reste à Sormiou, je reste grimpée et je rate la rentrée. Et donc, c'est très bien, sauf que l'hiver arrive. Sormiou, bon, c'est sympa l'été, mais
Il y a moins de choses à faire.
Donc je me dis, il faut que je me trouve un plan à ZAP. Donc je me réinscris à la fac en littérature juste pour pouvoir avoir une convention de stage parce que j'ai envie de travailler en fait. Mmh. Mais je ne sais pas très bien ce que je veux faire, mais j'ai envie de travailler. Et là, j'ai une opportunité, c'est de travailler dans l'édition. Il y a un stage chez un éditeur chez Hachette en gros.
D'accord.
Et donc je me lance. Et je tombe sur un éditeur qui me dit à l'époque, il me donne 50 000 francs à l'époque. C'est en 98, je me rappelle très bien la Coupe du Monde. Et il me dit, il faut que tu fasses un livre sur les plus grands succès littéraires au XXe siècle. Et t'as 50 000 francs, donc il faut que tu
c'est
trouves...
C'est beau quand même comme stage de...
Génial.
Enfin, c'est des super responsabilités.
Génial.
Tu donnes pas comme ça 50 000 francs à l'époque et puis un projet comme celui-ci à n'importe qui, entre guillemets, en tout cas au premier stagiaire qui arrive.
En tout cas, c'est la confiance qui m'a donnée. Et donc, je me retrouve à devoir trouver des experts sur chaque bouquin, Lolita, enfin tous les bouquins qui ont fait des succès au XXe siècle. Et surtout, je dois me trouver les couvertures de la version originale du bouquin. J'y connais rien du tout. Je tape sur Internet, je trouve des timbres poste. Donc, je vais voir le graphiste et je lui dis j'ai besoin de l'avoir en grand format.
Qu'est-ce que tu peux faire de ça ?
Voilà, il me dit mais Laure. Je ne pas comme ça, je me dis le mec est nul. Voilà, bref. Et donc, voilà, et donc je tombe amoureuse en fait de l'édition et du livre. Et je passe plus de 10 ans chez plusieurs éditeurs.
Tu commences ta carrière dans l'édition.
Voilà, okay. Et notamment un long moment en géopolitique,
okay.
Où là vraiment je m'éclate. J'ai beaucoup de chance parce que j'ai beaucoup de responsabilités. Je passe d'un sujet à l'autre, c'est passionnant, j'ai des revues qui viennent de la documentation française avec beaucoup d'aires géographiques différentes. J'ai un patron qui aussi me fait pas mal confiance, donc qui me laisse lancer des collections d'atlas géopolitiques, qui me laisse lancer des bouquins sur des prix Albert Londres, de journalistes, notamment Bertrand Rosenthal et compagnie. Enfin bref, voilà, j'ai énormément de liberté pour faire ce que j'aime faire et surtout, je dois... apprendre à longueur de journée parce que je suis avec des experts de sujets et de régions différentes. Donc voilà, donc c'est vraiment passionnant.
Tu l'as dit, là, tu as dit liberté. Et tout à l'heure, tu as dit, j'ai discuté, enfin, quand on m'a dit, on va te mettre, tu es juste là pour apprendre à mettre dans une case, on a ressenti que c'était pour toi oppressant. Et t'as vraiment eu ce sentiment-là, que t'avais besoin en fait, d'être libre, de faire comme tu voulais, et que finalement, après, l'entrepreneuriat, pour toi, c'était un moyen d'être libre, ou pas du tout ? Pour toi, il n'y a pas de lien ?
Je crois que j'ai ça en moi, voilà, je parlais de mon père tout à l'heure, et je pense que oui, c'est quelque chose qui m'a légué, c'est quelqu'un qui a toujours été très très libre, qui a fait beaucoup beaucoup de montagnes aussi, beaucoup d'escalade, etc., qui nous a picousé, je pense, depuis qu'on est tout petit, justement, à... ce goût de la liberté, quoi. Et donc oui, je pense que c'est quelque chose qui m'a poussé vers l'entrepreneuriat, Mais c'est pas forcément être très libre qu'être entrepreneur.
On en parlera tout à l'heure. On a l'impression qu'effectivement, monter sa boîte, c'est être libre, on fait ce qu'on veut et autres. Mais il y a d'autres contraintes.
C'est un peu plus compliqué. Ouais.
Voilà, ok. Tu parlais de tes parents. 10 ans dans l'édition. Ça, du coup, ils ont été contents que tu aies pu faire ça ou quelque chose de ta vie, comme tu disais tout à l'heure, versus médecin ou la lignée familiale.
Oui, je pense qu'au bout d'un moment, ils se sont fait à l'idée que, de toute façon, c'était mort, les maths et la physique-chimie, jamais j'y arriverais. Et non, je pense qu'ils étaient assez fiers de me voir m'épanouir et puis, prendre du plaisir et puis des bouquins qui sortent et puis des gros succès, parce qu'on a quand même sorti des bouquins sur Ingrid Betancourt 15 jours avant qu'elle sorte, qu'elle soit libérée par les FARC en Colombie. Voilà, c'est quand même des moments où on se retrouve sur les plateaux télé avec les auteurs. Enfin, voilà, c'est des moments super excitants, quoi.
Donc, ça t'a plu.
Ça m'a vachement plu, ouais.
Ok. Par rapport... donc ça, c'est les débuts. Donc, tu nous as expliqué d'où tu viens et comment tu as commencé ta carrière dans l'édition. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as eu un déclic et tu t'es dit, en fait, maintenant, j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat et j'ai monté une boîte. Qui plus est, une boîte dans la logistique ou le stockage. Alors, tu nous expliquais justement le concept en détail, mais qui n'a rien à voir avec l'édition.
Alors, en fait, je ne me suis pas dit « je vais être entrepreneur ». Je ne l'ai jamais formulé comme ça. Et même intellectuellement, je pense que je ne me suis jamais projeté dans l'entrepreneuriat. Comme je disais tout à l'heure, déjà, je n'ai pas grandi dans un milieu d'entrepreneur. Ouais. Et en fait, le moment où je vais me lancer, c'est le moment où j'arrive à Bordeaux. Je n'ai pas du tout un réseau de gens autour de moi qui sont entrepreneurs. Je ne connais personne d'ailleurs à Bordeaux. Mmh. Et tous mes potes sont journalistes, monteurs, réalisateurs, éditeurs. Enfin voilà, je n'ai pas du tout gravité dans ce milieu-là. Ouais. Ce qui va être un déclic, c'est que mon compagnon est muté à Bordeaux. Donc je le suis.
Donc tu suis, ouais.
Et là, je me retrouve à être éditrice, mais sans mes auteurs. Donc, je suis en freelance à l'époque et donc en télétravail. À l'époque, c'était il y a 10 ans.
Mais c'est pas comme aujourd'hui. C'est pas aussi simple qu'aujourd'hui, voilà. Accepté. Donc, ouais. C'est vrai que toi, tu devais être coupée finalement.
Je suis complètement coupée de toutes mes équipes, en fait.
Parce que le milieu du journalisme ou de l'édition, c'était très parisien à l'époque.
Oui.
Ouais.
Et donc, je me retrouve toute seule. On a déjà 2 enfants. Et donc, j'ai un peu l'impression d'être femme au foyer, parce que je travaille donc à la maison. Du coup, quand il y a un enfant malade ou je ne sais pas quoi, c'est toujours moi qu'on vient voir en me disant « il faut que tu gères les gamins, les courses, les trucs ». Voilà. Ça a vraiment changé, hein, les mentalités ont changé depuis, mais il y a 10 ans, c'était ça. Surtout, en fait, au moment où on arrive à Bordeaux, on a 48 heures pour trouver un appartement. On a laissé nos enfants et donc on trouve un appartement gigantesque. Nous, on arrive de Paris, donc c'est gigantesque, c'est super, il y a plein de lumière. Voilà. Je ne pense pas du tout rangement. Et je me retrouve avec tout ce que j'avais dans ma cave parisienne, dans mon appartement à Bordeaux. Mmh. Et je ne sais pas du tout quoi en faire. Et tous les matins, je vois mes voisins qui ouvrent leur garage et il y a plein de place. Et je me dis, c'est bête quand même. Je ne pourrais pas leur louer 4 mètres carrés et mettre toutes mes affaires chez eux. Voilà. Et donc, j'ai cette idée. Et je me dis, mais c'est fou, on est en plein centre urbain, il y a de la vacance en fait partout, il y a de la place partout, et tout le monde en même temps manque de place. C'est le début de l'économie collaborative, c'est le début des blablacars, etc. On commence à partager. Enfin, voilà, c'est des notions qui me parlent. Et puis, du coup, en fait, je me lance.
Et là, on est dans les années 2010, enfin après 2010.
On est en 2013, 2014, ouais.
Ouais, donc c'est le début finalement de tous ces concepts qui arrivent, d'Airbnb, voilà. Blablacar, etc.
C'est le moment où ça commence à décoller pour certains, ouais.
Donc il y a aussi un bon time to market finalement par rapport à cette idée.
C'est tout à fait ça, ouais. Je pense notamment pour la première levée de fonds, je pense que ça a pas mal aidé, ouais. Voilà, donc en fait, j'ai pas décidé, en fait, j'ai eu cette idée qui est devenue presque... Je te dirais presque une mission, en fait, parce que je me disais, c'est pas possible qu'on continue à construire, alors qu'en fait, il y a de la disponibilité et de la vacance partout. Et donc, c'est devenu viscéral. Il fallait que je fasse quelque chose. Ouais. Et je me suis laissée emporter par le... par le mouvement, quoi.
Ok, donc déclic, donc t'as cette idée-là, tu vois ça, tu te dis, bon, il y a un créneau à prendre, en tout cas, il y a une idée à creuser. Mais comment tu fais concrètement à ce moment-là ? Ce que tu dis, tu viens de l'édition, ton réseau, c'est pas du tout un réseau d'entrepreneurs, t'es dans une ville que tu connais pas, tu vas frapper à la porte de la CCI, tu rencontres des entrepreneurs, tu fais comment pour dire, je vais monter ma boîte ?
Ouais, alors en plus, je suis enceinte.
Et en plus, et en plus enceinte.
Je crois que la chose la plus intelligente que j'ai faite, c'est rentrer dans un incubateur qui s'appelait l'Auberge Numérique. D'accord. À l'époque. L'entrepreneuriat, pour moi, c'est aussi souvent avoir beaucoup de chance et rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Et je pense qu'à ce moment-là, j'ai rencontré les bonnes personnes. Il se trouve que dans cet incubateur, il y avait les fondateurs de deux boîtes qui sont assez connues aujourd'hui, qui sont Sambot, qui font de la location de bateaux entre particuliers, et Yescapa, qui font de la location de camping-car entre particuliers. Et donc, on s'est retrouvés tous dans cet incubateur au même moment, quasi au même moment. Et donc, je pense que ça a été assez déterminant pour moi parce que j'étais dans un écosystème qui avait des problématiques assez similaires aux miennes, qui, eux, avaient des parcours d'entrepreneurs différents, qui avaient fait des études avec des CTO, avec des mecs de la tech. Et je pense que j'ai bénéficié quelque part de leurs compétences pour monter moi-même en compétences le plus rapidement possible. Et puis, tout ce que j'avais fait dans l'édition, en fait, je pense que ce que j'ai gagné dans cette expérience-là, c'est que je savais m'approprier un sujet très rapidement. En fait, il fallait que je monte en compétences très rapidement sur n'importe quel sujet géopolitique.
L'exemple que tu donnais avec le stage, c'est quelque part... de l'intrapreneuriat, je veux dire, tu as un projet, on te dit, voilà, tu as tel moyen, la finalité, c'est de livrer ce livre, ce fameux livre, débrouille-toi pour le faire. Ce que je retiens aussi de ce que tu dis, c'est, tu n'as pas commencé de chez toi toute seule, tu es allé dans cet écosystème. Tu vois, c'est important, je pense, de le mentionner aussi pour celles et ceux qui nous écoutent, parce que aller s'entourer, même si, et je te poserai la question juste après, est-ce que tu as un ou des associés quand tu te lances ? Pourquoi ? Parce que quand tu te lances tout seul et que tu vas dans un écosystème, tu bénéficies aussi de l'expérience d'autres entrepreneurs, comme tu l'as dit, avec des profils, des parcours différents. Et mine de rien, ces échanges que tu as peut-être au café ou quand tu les rencontres dans les couloirs ou autre, fait que ça t'aide aussi probablement à structurer ton projet ou à avoir une autre vision sur ton projet.
Oui, je pense que c'est. Il faut surtout pas s'isoler en fait. Oui. C'est un entrepreneur, il est fait pour être au contact déjà de ses équipes, parce que très vite, en général, il y a des équipes, et puis ses partenaires, et puis après demain ses investisseurs, etc. Donc oui, non, il faut sortir de chez soi. Quoi.
Complètement aligné, parce que j'ai fait un TEDx dans lequel je parle de ça, oser les rencontres et comme quoi. Voilà, c'est les rencontres, aller les chercher. Tu parlais tout à l'heure de chance, tu dis j'ai eu de la chance, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Moi, pour moi, la chance, ça se provoque. Et ces rencontres-là, tu es allé les chercher, en fait. Tu es allé dans cet écosystème, tu es allé croiser ces gens-là. Alors que si tu t'étais lancé chez toi toute seule, sans aller dans un incubateur, ou sans postuler d'ailleurs, parce que je ne sais pas si tu pouvais y aller.
Si, j'ai postulé.
C'était pas si simple de dire je vais dans un incubateur.
Non, j'ai postulé, je me souviens très bien. J'ai fait, donc il fallait que je fasse une étude de marché et un business plan. Je ne savais pas du tout ce que c'était, donc j'ai fait ça comme si j'étais un journaliste, en fait. Donc j'ai fait une énorme enquête sur le garde-meuble, le self-stockage, avec des chiffres dans tous les sens.
Mais ça t'a aidé
j'ai
aussi,
quasiment écrit un bouquin, quoi.
Ouais, ouais.
Je suis arrivée, les mecs, ils n'avaient jamais vu ça.
Dans voilà. Un détail, peut-être.
Ouais, bon, mon BP était totalement faux, j'étais rentable en 6 mois.
Nous, c'est pareil,
on entre
le BP qu'on a fait au moment où on a gagné le concours étudiant de création d'entreprise qui a fait qu'on s'est lancé derrière et les mois qu'on suivit, ça n'avait rien à voir.
Oui.
Mais bon, mais il faut le faire.
Mais je l'ai fait,
pour
j'ai
avoir
fait
un
l'exercice.
Plan et voilà. Savoir où aller. Ok, donc tu commences comme ça. Est-ce que du coup, tu as un ou des associés à ce moment-là ? Tu te lances toute seule ?
Non, je me lance toute seule.
Et c'est quoi le concept initial ? Le projet
Je me lance toute seule et donc le projet initial, c'est vraiment faire du garde-meuble entre particuliers, donc faire une marketplace.
D'accord.
Où on va mettre en relation d'un côté des particuliers qui ont de l'espace dans leur garage, leur cave, que sais-je, n'importe quel espace qui peut servir à du stockage, et de l'autre côté des gens qui déménagent, des étudiants qui partent en Erasmus. Voilà.
Et comment tu fais à ce moment-là, puisque tu n'as pas de formation tech ?
Non.
Il faut développer une plateforme ?
Oui.
Comment tu fais ?
Alors là, je trouve une agence en fait qui va développer la version bêta en fait de la marketplace Et donc, voilà, ça se passe, on lance en 2014. Mmh. Je me rappelle, je l'ai dit dans un post il y a peu de temps, scruter les toutes premières réservations.
Tu rafraîchis pour voir s'il y a des commandes.
Et voilà, et être assez étonné en fait que ça prenne, parce que c'était quand même un gros pari de se dire qu'on pouvait aller confier ses affaires à quelqu'un d'autre.
Oui.
Parce qu'en fait, les gens, quand ils stockent leur vie.
Oui, c'est des souvenirs. Enfin, ça a une valeur sentimentale plus que parfois financière.
Beaucoup plus sentimentale que financière, en fait. Mmh. C'est très rarement financier. Et donc, je me disais, est-ce que ça va fonctionner ? C'est-à-dire, est-ce que oui, on va mettre ces cartons avec ces photos de famille et ces machins chez le voisin ?
Oui, chez le voisin.
Voilà. Et ça prend.
Alors, justement, modèle de marketplace au départ. Donc, qui dit marketplace dit mise en relation entre deux personnes, quelqu'un qui a une offre et quelqu'un qui a une demande. Comment tu fais pour lever les pain points, donc les problèmes, comme celui que tu viens de citer, qu'on peut rencontrer ? Est-ce que je vais pouvoir y aller quand je veux pour récupérer ma photo souvenir, par exemple, ou mon carton ? Est-ce que je ne vais pas me le faire voler ? S'il me le casse, comment ça se passe ? Est-ce que je peux faire confiance en ce voisin ? Voilà. Comment tu fais pour lever tous ces pain points ?
Déjà, on a la chance d'être accompagné par un assureur qui va développer un produit sur mesure pour nous.
Alors, tu as la chance. GAN. Mais comment tu les as trouvés ?
Ah oui, non, mais c'est vrai que je dis toujours j'ai de la chance. Non, bah, j'ai travaillé pour. J'ai monté des dossiers.
Tu les as contactés, t'as dit on va se lancer.
J'ai été frappé à 1000 portes. J'aurais expliqué ce qu'on allait faire. Il y en a qui m'ont pris pour une folle. Qui m'ont dit, mais ça ne marchera jamais.
Toujours ceux qui ont leur propre peur et qui projettent. Hein.
Oui. Surtout les assureurs, ils ne sont pas là pour prendre des risques. Donc, donc voilà. Mais pour finir, en fait, je pense que c'est force de détermination. Et je savais que c'était essentiel pour faire marcher le produit. Voilà, j'ai réussi à convaincre un premier assureur de nous suivre et de développer un produit d'assurance pour sécuriser un peu tout le monde. Et puis bah, après, les freins, on va les lever un peu comme toutes les marketplaces, avec des avis, avec un super service client qui accompagne les utilisateurs. Voilà, avec beaucoup aussi de presse. J'ai eu beaucoup de chance parce que c'était du coup la seule chose que je savais faire, c'était un peu la presse.
Ouais.
Donc j'ai eu beaucoup de médiatisation, ce qui m'a permis d'expliquer vraiment le concept, etc. Donc je pense que ça rassurait aussi. Des plateaux télé où ils viennent de filmer chez les gens. Donc, je pense que ça te donne un peu de concret, un peu de matière derrière. Et voilà.
Mais donc, du coup, ça vient apporter cette confiance, cette assurance ou réassurance aussi pour ceux qui souhaiteraient se lancer. Parce qu'à un moment donné, il faut être un peu early adopter ou innovant pour se dire, je vais aller sur cette marketplace qui est nouvelle, qui n'est pas encore connue, c'est une marque naissante, ou c'est un nouveau concept. Est-ce que j'ose me lancer et donner mon carton ?
Alors au début, forcément, on va chercher les proches. Hein.
Ouais. Tu commences au l'entourage.
On passe leurrer, on prend sa base de données, sa base de mails, et on shoot et on dit allez-y. Voilà. J'ai été la première d'ailleurs à utiliser le service.
Ouais.
Voilà.
Et est-ce que donc tu commences seul ou avec des associés ?
Non, je commence seul.
Okay.
Je commence seule, pas vraiment par choix. En fait, j'ai une amie qui est super motivée par le projet et qui arrive en fin de droit de chômage. Et,
difficile de prendre
donc,
le risque.
Voilà, difficile de prendre le risque à ce moment-là. Donc non, je me lance toute seule. J'ai le réseau Entreprendre qui me fait un prêt de 20 000 euros.
D'accord.
Je vais voir la banque.
C'est un prêt d'honneur ?
Ouais.
C'est-à-dire les taux zéro.
C'est ça, okay. Exactement. Mm-hmm. Je vais voir la banque et j'arrive à obtenir 40 000 euros de prêt.
D'accord.
Et puis, j'ai mes 2 ans de chômage.
Devant toi ?
Devant moi.
Ok.
Et donc, je me lance avec ça.
Ok. Donc, 60 000 euros empruntés.
Voilà.
Et puis, 2 ans de chômage. Donc, 2 ans pour lesquels, si effectivement, tu fais de la rentabilité ou du chiffre, tu peux le laisser dans l'entreprise pour après financer le développement.
Exactement.
Donc, tu commences 100% départ. Pour toi, toute seule, dans cet incubateur, tu trouves un partenaire pour développer la plateforme. Tu as cet avantage de venir de l'édition, donc de générer des retombées presse.
Oui.
Ça, souvent, c'est quelque chose où nous, on le voit avec nos clients aussi sur BuzzNative, mon agence conseil en com, où parfois les clients mettent ça un peu de côté, alors qu'en fait, ça permet d'aller chercher des points de confiance et de réassurance justement auprès de ces entités-là et qui rassurent les clients. disais, bon, bah, s'ils sont passés dans la presse, c'est qu'ils sont crédibles et sérieux. Donc ça, toi, tu conseillerais de le faire
trop tôt.
Pas trop tôt,
ouais. Ouais, pas trop tôt. Je pense qu'il faut être assez solide quand même voilà, pour répondre aux journalistes et pas raconter n'importe quoi.
Ouais.
Donc, je pense pas qu'il faille le faire trop tôt, mais je pense que quand on commence à avoir vraiment des early adopters qui sont en capacité de vraiment faire du témoignage de qualité, oui, il faut y aller. Faut commencer.
Donc toi, tu l'orientais témoignage, pas...
Oui, expérience de vie, ouais. En fait. J'avais créé un service, j'avais créé quand même un service qui est une solution à toutes les étapes de la vie. Je suis étudiant, j'ai besoin de stocker. Je pars à l'étranger, j'ai besoin de stocker. J'ai mes premiers enfants, j'ai plus de place à la maison, il faut que je stocke. Je déménage, il faut que je stocke. Je fais des travaux, il faut que je stocke. J'ai perdu ma grand-mère, il faut que je vide la maison. Enfin voilà, c'est toutes les étapes de la vie. En fait, on a des problématiques de stockage et de déménagement.
Ok. Alors, justement, tu dis « je stocke
ouais. ».
C'est aussi le nom de départ ?
C'est le nom de départ, ouais. Enfin, c'est « je stocke.com ».
Je stocke.com.
Ouais. Et après, « je stocke ».
Et donc, bon, ce nom, d'habitude, je pose la question, pourquoi ce nom ? Bon, là, il est explicite. Étonnamment, c'était pas pris ? C'était pas déjà réservé ?
Non, mais par contre, ça nous a posé quand même quelques difficultés parce qu'on pouvait pas en faire une marque, puisque c'est descriptif.
Ouais, ouais voilà. C'est descriptif, ouais. Ok, donc t'as pas pu te déposer à l'INPI voilà. Ou autre ?
Non.
Ok. Ok, donc tu commences avec justock.com, plutôt B2C, donc
plutôt
grand public,
C2C quoi, vraiment
ouais,
C2C.
C2C même. Ouais. Ouais,
c'est vraiment du C2C. Et puis très rapidement, je bifurque sur du B2C en plus, parce que je me rends compte que sur une marketplace, en fait, c'est l'offre qui draine la demande.
Et, oui.
Et que donc il faut avoir la main sur l'offre. Et donc là, là j'ai une idée qui me trotte dans la tête, c'est les bailleurs sociaux, enfin le logement social. Je sais qu'ils ont pas mal de vacances sur une certaine typologie, tout ce qui est annexe au logement, les garages notamment. Et je me dis, je vais aller les chercher, et je vais récupérer leurs garages et puis je vais les louer sur la plateforme pour du garde-meuble.
D'accord. Donc la deuxième idée.
Bah, c'est pas vraiment une deuxième idée parce que c'est la même chose sauf que j'ai la main sur l'offre et que du coup il va falloir que je gère quand même comme si j'étais un peu un gestionnaire de garage, donc il va falloir que je trouve des gens sur place pour faire les entrées, les sorties. Donc
et c'est plus le même modèle, enfin
ça fait évoluer, ça rajoute une brique en fait. Voilà, on rajoute une brique de service qui est celle qu'on peut gérer pour compte de tiers un ensemble de patrimoine immobilier, quel qu'il soit, pour à destination du stockage.
Bon, voilà. Très bien, bah, de voir l'évolution. On va bientôt passer à la deuxième partie. Avant d'évoquer justement comment tu fais pour gérer deux boîtes, ce que j'aimerais, c'est que tu puisses nous expliquer aujourd'hui, justock.com, c'est quoi ? Ça représente combien de personnes ? Enfin voilà, les différents chiffres que tu peux nous partager. Et puis, que juste après, tu nous expliques aussi la deuxième société. Et ça fera l'introduction à la suite.
Je stocke aujourd'hui. Déjà, je suis très fière parce qu'on est rentable. Voilà, donc ça, c'est une belle victoire pour moi. Surtout, ça permet de financer pour partie la deuxième structure. Donc, ça, c'est plutôt. Ouais, c'est un beau succès. On continue à faire des beaux taux de croissance. On est autour de 30, parfois 40% de croissance.
Par an.
Donc,
c'est beau.
Ça continue à être. On est sur un marché qui est ultra porteur puisque le marché immobilier est en train de plonger.
Ouais.
Et donc, il y a beaucoup d'argent et on cherche des portes pour trouver des nouvelles activités sur de l'immobilier. Et nous, on arrive avec une super solution, avec un taux de rentabilité génial. Donc, je pense qu'on a encore beaucoup de choses à faire. Donc, c'est en même temps encore hyper excitant. Et voilà, on travaille encore sur plein de projets de développement. Et plein de POC. Donc c'est
du potentiel et
très...
des idées dans les tuyaux qui vont sortir.
Voilà, exactement. Okay.
Et vous êtes combien sur justock.com ?
Et c'est, on est juste une vingtaine sur justock.
C'est déjà une belle équipe.
Voilà, c'est super.
Et tu as principalement maintenant des profils tech aussi ? Ou tu as toujours, tu passes par un partenaire extérieur ?
Ah non,
tu
non,
pas
ça,
intégré ?
Tout est en interne. Ouais.
Tu as tout intégré.
Ouais, okay. J'ai tout intégré.
Donc maintenant, chez justock.com, l'équipe, c'est des développeurs ou des techs.
Ouais.
Quoi d'autre
du
comme
market.
Marketing.
Ouais. des sales.
Ok, donc la partie commerciale.
Et du service client.
Ok.
Voilà.
Ok, donc ça c'est justoc.com, qui se développe, qui a du potentiel.
Ouais.
Et à côté, alors cette deuxième entreprise, deuxième idée qui est arrivée et que tu as lancée.
Alors en fait, c'est en 2020, je fais un tour de table encore pour financer Justoc, où on a un gros projet de développement. Je boucle le 3 janvier 2020, donc 2 mois avant le Covid.
Ouais.
Le Covid fait un coup d'arrêt total au projet qu'on a, parce que c'est un projet sur lequel il va falloir qu'on finance du CAPEX, donc qu'on fasse des travaux, bref. Donc c'est un peu la panique. Enfin la panique non, parce que j'ai plein de cash, mais du coup je vais pas pouvoir faire le projet que j'avais vendu à mes investisseurs.
Ouais.
Et j'ai une idée qui me trotte en tête depuis un bon moment déjà, c'est de faire du B2B sur des problématiques de stockage. Voilà, alors, je sais pas très bien comment je vais le faire, mais bref, ça me trotte dans la tête. Et surtout, avec l'arrivée du Covid, j'ai des clients qui m'appellent et qui me disent j'ai un problème logistique, parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, le Covid arrive, la supply chain, c'est un bazar total. Hein. On ne se rend pas compte.
Parce que d'un coup, il y a des volumes beaucoup plus importants à traiter.
Il y a des boîtes qui coulent, qui ont besoin de sortir leur stock. Il y a des conteneurs qui arrivent plus de Chine, puis ils arrivent par paquet. Donc, tout d'un coup, ils sont, on en est là. C'est un bazar sans nom. J'ai vraiment des super marques qui nous appellent et qui nous disent « Trouvez-nous des solutions logistiques. » Et je leur dis « Mais moi, je fais du garde-meuble. »
D'ailleurs, pourquoi elle vous appelle ? Parce que vous, c'est quand même...
Parce qu'on sort sur les mots-clés stockage.
Oui, parce qu'on voit pourtant l'offre, elle est pour les particuliers.
Oui.
Mais ils vous appellent quand même et ils tentent. Donc, ils n'étaient vraiment pas désespérés. Mais ils
vont peut-être trouver un espace de stockage, quoi. Sauf qu'en fait, ils ne veulent pas du stockage, ils veulent de la logistique.
Ouais, ils veulent gérer.
Moi, ça, je n'ai pas compris, en fait. Ouais. Je n'ai pas compris ce que c'est la logistique, en fait. J'ai compris ce que c'est que le stockage et le garde-meuble. Mais la logistique, je ne sais pas ce que c'est. Et donc je me dis ils ont qu'à aller sur Justoc et louer des mètres carrés. Enfin il y en a, voilà. Donc on va juste aller chercher de l'offre avec des mètres carrés
des boîtes qui vont aller stocker des marchandises chez les voisins.
Voilà. Non pas chez les voisins, mais je me dis on va aller chercher de l'offre avec plus type entrepôt, voilà. Et puis ils vont se débrouiller, quoi. Ils vont faire de la location. Mais j'ai pas compris que la logistique c'était un métier. Ça n'avait rien à voir avec...
Il faut gérer les flux.
Voilà, les entrées, les sorties, les pickings, les machins. Bref. Je pense que quand même, pendant 6 mois, je tourne un peu en rond avec cette idée-là. Et puis, en me disant, je ne comprends pas pourquoi ils ne vont pas sur la marketplace. Voilà. Jusqu'au jour où je percute que quand même, ça ne va pas le faire. En fait, ce n'est pas possible parce que leur besoin, ce n'est pas du tout celui de la qui est adressé par la marketplace. Et là, du coup, je pars convaincre mes investisseurs qu'il faut qu'on réponde à ce besoin.
D'accord.
Qu'il y a un véritable potentiel, que tous les signaux faibles autour de moi me font dire que dans le monde de demain, il va falloir une flexibilité maximale sur la logistique et sur la supply en général. Et qu'on a 10 ans d'expérience dans la tech, on a 10 ans d'expérience dans la mise en relation, et qu'on a une carte à jouer phénoménale.
Et des fonds qui étaient disponibles, qui n'étaient pas utilisés.
Et on a du cash. Voilà.
Et c'était simple de les convaincre ? Ils ont tout de suite adhéré à l'idée ou il a fallu un peu ramer ?
Disons que je pense que ce qui les a rassurés, c'est que du coup, j'ai mis Justoc à l'équilibre très vite.
Il y avait déjà une activité rentable. Parce que, en plus, je voudrais revenir là-dessus, pardon, mais tu disais, on a fait plusieurs tours de table. Mais Justoc.com était rentable rapidement.
Justoc, c'est rentable à partir du moment où, justement, on fait ce troisième tour de table, où on D'accord. est censé développer un. Et là, on met Justoc à la rentabilité parce que Covid, on se dit, OK, maintenant on arrête, il faut que cette boîte soit rentable, on arrête de faire de l'hypercroissance. On va faire de la croissance, mais pas de l'hypercroissance. Et donc, on la met à la rentabilité et on préserve notre cash pour justement lancer D'accord. cette nouvelle activité.
Donc, la chronologie, c'est tu lances Justoc.com.
Ouais.
Les levées de fonds ont permis d'atteindre une rentabilité, une fois qu'il y a un nouveau tour qui, lui, devait servir à lancer l'idée initiale et qui, finalement, avec le Covid, a switché, a bifurqué vers
Wercito. Cette idée.
Voilà, Wercito. OK.
Voilà.
OK, donc Wercito, c'est quoi aujourd'hui? Comment s'organiser? Quelle est l'offre? Et si tu as quelques chiffres à nous partager?
Alors, Wercito, c'est né vraiment du Covid et ça s'est très fortement accéléré avec évidemment la guerre en Ukraine, etc. Ouais, et
tous les contextes géopolitiques.
Et environnementaux. Wercito, en fait, c'est une offre qui est servicielle et technologique. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on répond à l'intégralité de la problématique logistique d'une entreprise, aussi bien sur la partie stockage que tout ce qui va être picking, cross-dock, tout ce que tu veux. Et on gère aussi toute la partie transport.
D'accord. Voilà. Donc, c'est global.
Une offre totalement complète, sur mesure et sans engagement. La complexité de la logistique, c'est que très souvent, quand tu fais appel à un logisticien, tu es sur des engagements, sur du long terme, quasiment un bail 3-6-9.
C'est un gros engagement.
Et en fait, avec le Covid, on s'est rendu compte que les entreprises, elles avaient vraiment besoin de flexibilité, d'agilité.
Oui, tu l'as dit tout à l'heure, pouvoir s'adapter.
Pouvoir adapter leur stock quasiment en temps réel, en fonction des variations. Et donc, nous, ce qu'on leur propose, c'est ça. Et surtout, vu qu'on est une boîte de la tech, on va aller leur retirer la pire des épines du pied pour une boîte qui fait de la logistique, c'est de connecter les systèmes d'information et les outils qui s'utilisent.
D'accord.
Parce que du coup, dans un entrepôt, tu vas avoir un système d'information, dans un autre entrepôt, tu en as un autre, et puis ton client, il utilise un ERP, et puis ton transporteur, il utilise un TMS, et machin, etc.
Et comment tu fais ça? Toi, tu as une roadmap technique? Tu dis, les principaux roadmap, ERP ou outils de gestion de stock, c'est ceux-là, donc il faut qu'on fasse des partenariats avec eux, qu'on développe des connecteurs?
Exactement.
D'accord.
C'est ça.
Donc toi, tu priorises, te lances là-dedans.
On priorise et on se lance dans comment est-ce qu'on va le plus rapidement possible interconnecter. Moi, je passe beaucoup de temps avec des entrepreneurs qui sont déjà passés par là, qui ont déjà eu des difficultés à interconnecter, notamment des systèmes qui sont des mastodontes et qui sont potentiellement des systèmes assez anciens. Parce que connecter du Shopify ou du WooCommerce aujourd'hui, c'est pas très compliqué.
Oui, c'est ouvert, mais...
Voilà, mais connecter certains que je ne citerai pas, c'est un peu plus compliqué.
Parfois, c'est parce qu'ils sont anciens, parfois, c'est une volonté aussi de rester un peu fermé pour pas...
tout à fait.
OK, donc, donc là, en termes de volume d'activité ou d'effectifs, aujourd'hui, sur Wercito, c'est quoi un peu l'activité?
Alors aujourd'hui, on est une trentaine de collaborateurs. On a 15 recrutements en cours là sur 2024. Mmh. On gère plus de 250 clients. Majoritairement, c'est des PME, ETI, grands groupes. Donc, on fait aussi bien du Leroy Merlin que du Colas, que du...
C'est pas que de l'e-commerce qu'on pourrait avoir l'idée justement plutôt de boîtes.
On gère des très grosses boîtes du e-commerce, pas mal que je peux pas citer malheureusement, mais...
Une taille minimum peut-être pour rentrer chez vous, parce que tu disais sans engagement, mais du coup la contrepartie c'est vous qui prenez sur vous une partie du pain point quelque part. Donc est-ce qu'il y a, c'est quoi un peu les conditions d'entrée, est-ce qu'il y en a d'ailleurs, d'avoir un volume minimum ou d'avoir déjà tant d'existence?
Oui, en dessous de 100 palettes on fait pas.
Alors 100 palettes
ça fait 100 mètres carrés en gros, une palette 1 mètre carré.
Bon, donc après, il faut calculer par rapport à ses produits ou son packaging pour savoir combien ça fait de produits.
Non, mais après, tu peux avoir des palettes plus ou moins hautes.
Okay.
Mais en dessous de 100 palettes, on ne sait pas très bien faire.
D'accord.
Voilà.
OK.
Et puis, c'est pas notre modèle économique. On est plutôt sur du très, très gros volume.
Ouais.
On gère, par exemple, toute la logistique d'un des plus gros producteurs de cognac. En France on gère pas en général le core business, c'est-à-dire le produit fini, l'alcool, mais par contre on va gérer toutes les bouteilles, tous les bouchons, cette partie-là de la logistique. C'est souvent le cas pour beaucoup de nos clients.
Ok, bon, écoute, super intéressant. j'ai envie de creuser du coup cette seconde partie qui est, mais comment tu fais, Laure? T'as deux boîtes, alors des idées en plus, t'en as plein. Mais tu as juststock.com, t'as Wearcito à gérer. Tu gères les deux, t'es présidente des deux, t'as une équipe pour gérer l'une, toi tu gères l'autre, ou t'as une équipe pour gérer les deux et toi t'as la vision. Enfin voilà, comment tu t'es organisé, comment tu fais pour faire avancer de concert ces deux entreprises?
Alors, comme tu l'as certainement noté, je suis pas. Enfin, déjà, j'ai pas fait de grandes écoles, donc j'ai pas un esprit très formaté, organisation, etc. Mm-hmm. Donc, je pense que j'ai fait un choix assez stratégique un jour où j'ai recruté Margot Liprindi, qui maintenant est ma CEO.
D'accord.
Voilà, qui, elle, a un parcours bien différent du mien et qui a fait des plein de grandes écoles et qui a plein de super diplômes et qui elle est une killeuse de l'organisation du process voilà et donc je pense que on a des profils très très complémentaires
et elle gère laquelle des structures
elle gère les deux structures
vraiment
et elle a mis en place tout un système d'organisation et on a staffé aussi beaucoup en management intermédiaire pour qu'elle puisse se reposer sur des managers qui sont plus capés que ce qu'on avait au tout démarrage. Et voilà, elle a mis en place aussi beaucoup d'outils de reporting. Voilà.
À structurer, cadrer l'entreprise.
Elle a vraiment super structuré, super cadré. Et donc, on a vraiment bien séparé en fait, les deux fonctions. Donc, elle est vraiment en train de dérouler la stratégie et l'opérationnel et structuré. Et moi, faut pas me demander de structurer, par contre, parce que j'ai une idée à la minute. Donc, moi, je suis plutôt sur la vision à long terme. Je suis plutôt sur les 3-5 ans à venir. Et je suis plutôt celle qui va prendre des risques et qui va aller chercher les investisseurs qui vont m'accompagner sur la prise de risque.
Donc, ce fameux, on parle souvent de ce fameux couple explorateur-intégrateur, qui est de dire, il faut avoir, si on est tout seul à la tête de sa boîte, la capacité de faire un peu les deux, et de dire comment j'explore, et j'ai cette vision, et je me projette à quelques années, puis à la fois comment j'intègre la stratégie dans l'entreprise, parce qu'il faut qu'elle soit bien exécutée, pour qu'elle déroule. Alors j'ai plein de questions pour toi sur ça. T'as dit, j'ai recruté une CEO, donc moi j'ai plein de questions sur quel est le déclic qui fait qu'à un moment donné tu dis, je prends une CEO, quelqu'un qui va faire ce que je faisais avant ou qui va faire justement ce que je ne sais pas faire. Est-ce que ça vient de toi? Est-ce que ça vient de tes investisseurs qui ont dit, Laure, t'es gentille, mais justement, t'es plus exploratrice que intégratrice, donc va falloir peut-être que tu te staffes. Donc, j'ai plein de questions autour de ça. Et puis, j'ai d'autres questions aussi sur ton organisation, parce qu'aujourd'hui, oui, tu travailles sur la vision et la projection de ces deux marques et entreprises. Mais du coup, comment tu t'organises? Que tu dis, il y a X jours dans la semaine, je suis sur l'une des marques. Est-ce que c'est le matin, l'après-midi? Est-ce que, enfin voilà, j'aimerais bien creuser un peu ton organisation personnelle, même si tu l'as dit, tu n'es pas une experte de ça, mais tous celles et tous ceux qui nous écoutent ne sont pas forcément des experts non plus de l'organisation. Donc alors, on commence par le déclic.
Ouais.
Voilà, comment tu passes le cap de dire, je vais prendre quelqu'un qui va faire mon métier ou qui va me remplacer, parce qu'il y a aussi cette notion de dire, je suis en train de lâcher un peu de pouvoir, en train de lâcher peut-être mon bébé, pour ceux qui voient l'entrepreneuriat comme ça. J'aimerais bien comprendre, toi, dans quel état d'esprit tu étais.
Alors déjà, moi, je l'ai toujours dit, c'est pas mes bébés, quoi. Enfin,
t'arrives à être détaché.
Donc, c'est vraiment pas mes bébés. Voilà, je suis passionnée par ce que je fais. Je trouve ça génial d'avoir cette chance d'entreprendre et de faire ce que je fais. Mais c'est pas mes bébés, voilà. Margot, elle arrive comme directrice financière.
D'accord.
Voilà, donc elle arrive avec cette casquette-là. Et puis, il y a un moment où on devient vraiment trop gros et où vraiment je sens qu'on a besoin de structurer, etc. Et donc, je lui propose le poste de DG, elle me dit non.
D'accord.
Je lui dis, je vais recruter du coup un DG parce que moi, je pense qu'on a besoin de cette compétence-là et que moi, j'arrive en fait au moment où je vais plafonner.
Ouais.
Et c'est idiot limites, parce que... Oui, et puis surtout, je ne vais plus m'éclater parce que moi, ce qui m'éclate, c'est vraiment d'être dans le futur et de raconter des histoires de ce qu'on va faire demain et d'emmener les gens avec moi. Donc elle me dit non, je sors une offre Et elle revient dans mon bureau et elle me dit « Non, en fait, si je le veux. »
En fait, il a fallu qu'elle digère, qu'elle intègre. Et...
elle dit « Oui, je le veux. » Et elle dit « Oui, je le veux parce que aussi... » Et encore une fois, tu vas me dire « C'est pas de la chance, c'est toi qui l'as provoqué. » Mais bon, pour moi, ça reste de la chance. Ma toute, toute première salariée, qui s'appelle Rama Kedad, qui est venue chez moi, chez Je Stock, pour faire des réseaux sociaux, qui à l'époque est juste une boule d'énergie, mais qui fait une faute d'orthographe par mot. Mmh. Et donc je me souviens, je bataille avec elle, je lui dis « Rama, mais c'est pas possible, il faut absolument que tu apprennes à écrire en français correctement, c'est une cata, tu t'en sortiras jamais sans ça. » Et je trouve qu'elle est hyper bonne sur les chiffres, elle est hyper douée avec les chiffres. Et je me dis, mais c'est pas possible, en fait, il faut pas qu'elle fasse des réseaux sociaux et de la com, il faut qu'elle fasse
des... C'est pas là sa zone de génie.
Et... voilà. Mmh. Et donc, je l'emmène vers ça. Et elle va partir, faire une super carrière à Paris, lever des millions et des millions pour plein de boîtes. Merci Andy, je sais pas quoi. Enfin bref, elle fait un super parcours. Elle reste au bord de ma boîte.
D'accord.
Et au moment où Margot prend la direction de DG, elle m'annonce qu'elle vient se réinstaller à Bordeaux. Et qu'elle.
Timing parfait.
Et qu'elle elle veut un poste de part-time en CFO.
D'accord, ok.
Voilà. Chez Wardsito. Ouais. Et là, c'est le combo gagnant.
Ouais, ouais.
Je la connais depuis le tout démarrage. Elle connaît ma boîte par cœur, puisqu'elle est au board. On a évolué ensemble, on a grandi ensemble. Voilà. J'ai une confiance absolue en elle. Voilà. Elle est hyper douée, mais elle est magique avec les chiffres. Voilà. Et elle est très, très douée aussi pour être, se positionner comme une fonction très centrale dans la société, de mettre vraiment la finance au centre de la société. Et donc là, je me dis, on a un boulevard et donc je peux lâcher.
Mmh. Voilà. Donc, tu as deux personnes de confiance. Une en CEO, une en DAF.
Ouais.
Qui te permettent, toi, de te libérer du temps aussi, d'être plus aussi sur ce qui, toi, te t'énergise quelque part, et là où tu peux porter les deux boîtes vers le futur.
Alors, j'ai ces deux personnes de confiance, mais j'ai aussi un CTO qu'on va recruter qui est à Nantes et qui, pareil, a une vision... et business et tech, qui a une très grosse expérience. Et puis, du management intermédiaire avec vraiment des gens super autonomes, hyper capés. Et donc, je pense que c'est ça le déclic pour moi et le moment où j'arrive à lâcher complètement les équipes et à leur faire confiance. C'est parce que je sais qu'ils sont meilleurs que moi, en fait.
Donc, l'idée vient de toi au départ ? C'est toi ou c'est un investisseur qui, à un moment donné, te dit « serait bien que tu staffes ou tu structures » ou ça vient complètement de toi ?
J'ai pas le souvenir que les investisseurs m'aient vraiment dit « il te faut un DG maintenant, l'or. » Voilà.
Pourquoi je te pose cette question ? C'est parce que, en fait, pour les entrepreneurs, t'as vraiment ce sujet de se dire bah, parfois, tu as besoin d'un regard extérieur, quel qu'il soit, que ce soit un investisseur, un pote, un collaborateur ou autre, qui te dit en fait, là, c'est plus à toi de faire ça, ou là, non, il y a besoin de ci, ou il y a besoin de ça. Et parfois, ça peut venir de soi-même. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Il y a juste. J'aime bien arriver à comprendre pour celles et ceux aussi qui nous écoutent de se dire bah tiens, c'était peut-être pas une option que j'avais à l'esprit, et parce que je ne me suis pas posé la question. Et là, Laure, elle se l'est posée. Et oui, c'était pertinent. Et elle n'a pas attendu que quelqu'un lui dise. Elle n'a pas été au bout, tu vois, du truc, à un point de non-retour où finalement elle aurait pu, je sais pas, planter sa boîte ou aller dans une direction qui n'était pas la bonne. Donc ça, j'aime bien comprendre ça.
Bah en fait, je pense qu'il faut que tu gardes du plaisir en fait. Mmh. Voilà. Et donc là, j'étais arrivée au stade où y avait trop de salariés, trop d'organisations à mettre en place, etc. Et où j'étais pas dans ma zone de confort. Et moi, ce qui me faisait triper, c'était de travailler avec des gens qui savent mieux faire que moi, en fait. Puisque depuis le début, je ne savais rien faire, en fait, j'ai passé mon temps à être qu'avec des gens qui savaient mieux. J'allais toujours chercher des gens qui étaient meilleurs que moi sur tous les sujets. Et
tu avais les moyens de les recruter ? Parce que tu avais levé
des fonds
aussi, non ?
Non, parce que des fois, oui, des fois, j'avais les moyens de les recruter. Et puis des fois, en fait, peut-être on ne se le dit pas assez quand on est entrepreneur, mais je pense que quand on est, quand on sait être assez humble et dire « je ne sais pas », et qu'on sait, on a aujourd'hui tous les moyens avec LinkedIn ou ce que tu veux, d'aller voir des experts et de leur dire « donne-moi 15 minutes de ton temps ». Alors, c'est 15 minutes qu'il faut préparer, hein. Oui. Et pas 15 minutes où on arrive les doigts dans le... Voilà. Mais donne-moi 15 minutes de ton temps. J'ai jamais... J'ai eu une fois un non.
Ouais.
Voilà.
Mais donc, c'est, tu parles de l'origine aussi du podcast, c'est-à-dire que moi, avant que ce soit un podcast, c'était Julien, 23 ans, qui se lance sans réseau, sans expérience, sans rien, et qui, pour progresser, faisait ça. Et je disais, bah, tiens, je vais voir d'autres entrepreneurs et dire, t'as pas une demi-heure ou une heure, on mange ensemble, on prend un café, et explique-moi ton parcours, ce qu'il faut faire, enfin, comment t'as vécu toi l'entrepreneuriat. C'est devenu un podcast, un livre et l'échange vidéo qu'on a aujourd'hui. Mais voilà, donc toi, tu conseilles vraiment ça de s'ouvrir aussi des perspectives.
Moi, j'avais cette problématique-là sur la partie entrepreneuriale. Donc, où effectivement, il fallait absolument que je rencontre des entrepreneurs pour qu'ils m'aident sur les problématiques de levée de fonds, etc. Mais il fallait aussi, avec Wercito, que je monte en compétences très rapidement sur les enjeux logistiques et donc que je parle avec des directeurs supply, avec des directeurs des opérations, voilà, à comprendre vraiment quelles étaient leurs pains, quelles étaient les solutions qu'on pouvait leur apporter, comment est-ce qu'on allait rendre leur logistique plus safe. En fait, je ne sais pas si tu te rends compte, mais c'est 100% du chiffre d'affaires qui passe par la logistique. Donc, en fait, on a leur chiffre d'affaires. Donc, si on se craque, on plante leur chiffre d'affaires. Et quand tu as des marques comme celles qui nous font confiance aujourd'hui, qui délèguent une partie ou tout de leur logistique, tu n'as pas envie de te craquer. Donc, tu as intérêt à comprendre très vite et à être très, très bon sur les sujets
Et ça, du coup, donc, tu dis, c'est toi qui es allé explorer, tu as rencontré des directeurs logistiques ou autres.
À longueur de journée, je fais ça tout le temps.
Est-ce que tu as aussi recruté dès le départ quelqu'un qui était, je sais pas, dans une boîte concurrente ou pas, ou spécialisé en tout cas de la logistique, qui avait déjà peut-être 10, 15, 20 ans d'expérience et qui pouvait d'un coup te faire passer un gap en termes de compétences internes sur le sujet ?
On l'a fait ensemble. En fait, d'accord. J'avais en interne, je suis allée voir un, donc il s'appelle Théo, Fouillade, et il avait pas mal bossé dans la grande distrib, donc il était assez doué sur les sujets logistiques, en fait, c'était un peu son truc. Et c'était un peu le seul à croire à mon projet au démarrage.
D'accord.
Donc je suis allée le choper et je lui ai dit, Théo, en fait, tu sais ce qu'on va faire ? On va faire un... Alors, à l'époque, ça s'appelait Je Stock Pro.
D'accord.
On va faire un truc en B2B, mais on va vraiment partir de zéro. Voilà. Donc, on n'a pas de site internet, on n'a rien. On a des clients. Il va falloir qu'on leur trouve des entrepôts. Et donc, on faisait tout à la mano. On prenait les commandes au téléphone. Margot qui débarquait dans mon bureau en me disant « Vous êtes gentil, vous avez signé des clients, mais je n'ai pas de logiciel de facturation. Comment on fait ?» Théo qui était là, vite, il nous faut un contrat. Ah mince, il nous faut un contrat. Comment on fait? C'est quoi? On contractualise? Qui contractualise avec qui? Enfin bon, voilà. Donc au début, c'était assez rock'n'roll. Et puis, très vite, on a structuré. Et puis aujourd'hui, on a 250 clients et voilà. Et on fait des taux de croissance de fou et on fait plusieurs millions de chiffre d'affaires. Et c'est au bout de 3 ans, c'est une belle réussite, je crois.
C'est une belle expérience et ça me fait sourire parce que là, en fait, tu viens de me transmettre, sans le vouloir, mais ce rappel, c'est du souvenir des débuts. Au final, tu le fais aussi avec des bouts de ficelle ou comme tu peux,
oui.
Et c'est toi, mais mettre les mains un peu dans le cambouis, ça fait du bien. Parce que parfois, tu es un peu trop éloigné de ça. Et de se dire, tiens, en fait, de refaire, ça me permet de comprendre ou d'avoir cette excitation aussi au début, d'être 2-3, juste croire en l'idée, qui est peut-être un peu folle pour certains. Se dire, on va faire quelque chose et le challenge, il est là, il est beau. Donc, bravo pour cette expérience. On arrive à la troisième partie, c'est bientôt la fin de l'épisode. Ce qui m'intéresse, c'est que maintenant, tu nous expliques quelle est justement cette vision, parce que tu es sur ça, c'est ton sujet. Quelle est cette vision pour les deux?
Tu vois, tu as zappé l'organisation. C'est drôle.
Ah, on va parler de l'organisation.
Non, 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 mais ouais, c'est très bien.
Zappons-le. C'est très bien, parce que
j'adore.
Surtout si tu n'es pas expert.
T'as raison.
Non, sur l'orga, ouais.
C'est,
comment tu fais alors, matin, soir, comment tu fais? Non, 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 t'as raison. On va revenir dessus.
En fait, comment je fais? En tout cas, j'ai des temps qui sont obligatoire. Donc, les temps où il faut que je monte en expertise, c'est obligatoire. Donc,
d'accord.
J'ai à minima une à deux fois par semaine un call d'une demi-heure ou d'une heure, ça dépend, avec un expert de la logistique okay. ou un directeur supply, je te dis, enfin voilà, ça plutôt des grosses boîtes. C'est priorité absolue. Okay. Il faut mm-hmm. absolument que je le fasse. Ça a très souvent des retombées business d'ailleurs, parce que du coup, ils découvrent aussi ton offre, voilà, etc.
C'est malin, mais en vente, c'est une sorte aussi de, enfin, c'est une manière aussi finalement d'entrer en contact avec.
Exactement. Avec tes clients. Ouais. Voilà. Donc ça c'est obligatoire. Ensuite, j'ai toutes les réunions d'équipe. Donc j'ai une réunion d'équipe Je Stocke et une réunion d'équipe Wearcito.
Et quand tu dis d'équipe, alors c'est avec qui et vous traitez de quoi?
C'est avec les managers.
D'accord.
Donc c'est vraiment, t'as une équipe, enfin t'as une réunion hebdomadaire et après on a des points mensuels, stratégiques. D'accord. Et des points trimestriels.
Voilà. Et ces points hebdo, ils partagent quoi, les chiffres, où est-ce qu'ils en ouais. sont, enfin c'est reporting ouais.
Oui, c'est vraiment du reporting, voilà, c'est des chiffres et les pains, et les problèmes.
Oui, qu'est-ce
j'ai un problème,
quelles sont les alertes ou problèmes qu'on peut avoir devant nous.
Aidez-moi, ça j'arrive pas, voilà.
Okay.
Et ensuite, j'ai une fois par mois une journée... avec Margot et Rama, justement, donc la directrice financière et la CEO, où on part à la mer mm-hmm. et on fait une journée sur des gros enjeux stratégiques ou des gros pains.
C'est une sorte de codir ou...
On a aussi un codir, mais c'est vraiment une journée aération, quoi. On sort, on essaye de créer.
C'est important, même physiquement, de ne pas être ouais. dans le même lieu parce que tu es dans tes bureaux, tu as le téléphone. Enfin, c'est ton quotidien, donc pour aussi générer des collisions d'idées qui n'ont rien à voir entre elles, c'est un peu plus compliqué. Là, de te dire, bon, vous, c'est la mer, parce que c'est la proximité, mais ça pourrait être la montagne ou la campagne,
ouais.
peu importe où. C'est intéressant bah, de faire ça.
Ouais, c'est vraiment une journée, une bouffée d'oxygène, et on en sort toujours reboosté à fond, et avec plein de...
Et oui, parce que souvent, l'écueil, enfin, moi, ce que j'ai vécu aussi à un moment donné, c'était que... T'as envie de traiter l'urgence. L'urgence, c'est de répondre à cet email, de faire ci, de faire ça. Alors que l'important, c'est au contraire de dire, bah, je prends une journée, du recul, et je pense aux étapes d'après,
ouais.
Quitte à décaler oui, d'une journée la réponse à cet email ou autre. Mais en tout cas, ça me permet d'être sûr que sur le long terme, l'entreprise bah, elle est viable, pérenne et qu'elle va se développer. Donc, ça aussi, c'est pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est important d'avoir à l'esprit. C'est pas parce que vous faites une journée où vous n'êtes pas sur les sujets de prod, que vous n'êtes pas en train de faire avancer la boîte. Au contraire, c'est justement aussi faire avancer stratégiquement et structurellement l'entreprise. Donc
j'ai des temps forts. Okay. Voilà.
Et ils sont tous cadrés dans le temps. Tu les connais à l'avance pour t'organiser autour. Ou alors c'est ouais. à la bonne gueule, entre guillemets. Tu te dis, tiens, un coup c'est là, un coup c'est là.
Non, bah, c'est aussi souvent quand tu es sur des gros directeurs dans des très grosses boîtes, c'est un peu leur planning.
Oui.
Voilà.
Donc, non, mais les temps qui te. Avec... Toi, tu maîtrises, je veux dire, les réunions hebdo.
Oui, ouais. oui. Ça, c'est calé 6 mois à l'avance, voire un an à l'avance. Enfin, je sais mon planning, voilà, je sais les temps forts et les trucs que je ne peux pas bouger. Et après, bah, j'ai quand même une grosse fonction de représentation. Donc après, j'ai beaucoup de déplacements et beaucoup de rencontres, voilà, comme on fait aujourd'hui ou comme
et je vais faire demain. Merci de Bordeaux à Paris pour enregistrer aujourd'hui.
Voilà.
Ça marche. T'as dit que t'es pas experte, mais quand même, ça m'intéresse. T'as des tips organisationnels à partager ou des astuces ou... Je parlais justement de ces temps et ces créneaux tu vois, qui sont bloqués à l'avance. Mm. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris à faire, par exemple, où avant, c'était tout le temps que de la flexibilité, mais si bien que t'es perdu et t'as... T'as pas tes temps où tu réfléchis, t'as pas tes temps où tu produis, t'as pas tes temps de rencontre. Donc, après, structurer, en tout cas, moi, c'est la manière dont j'ai trouvé. Donc, ça bouge pas, effectivement. Et après, autour, on peut s'organiser. Ça m'a aidé. Est-ce que toi, c'est le même fonctionnement? Est-ce que pas du tout? Et comment t'améliorerais comment t'es organisé aujourd'hui?
Alors, moi, vraiment, je bloque dans mon emploi du temps. C'est-à-dire que quand je sens qu'on a des sujets vraiment stratégiques qu'il faut craquer ou quand je sens qu'il va falloir que je m'investisse sur, je ne sais pas, un sujet X ou Y, je vais vraiment bloquer des après-midi entières ou des journées entières dans mon agenda où, de toute façon, personne ne peut venir me booker une réunion supplémentaire. En fait, d'accord. C'est booké, c'est comme si j'étais off, quoi. Et ça, j'ai vraiment appris à le faire et appris à ne pas être disponible. C'est très compliqué.
Ouais.
De ne pas répondre au téléphone.
Comment tu as fait pour justement craquer ça et te dire ok, bon, bah là, j'accepte de dire je ne suis pas dispo ou c'est pas grave, je suis en train de travailler sur justement l'important et pas l'urgent. Je mets tout de côté pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures.
Ben parce que je suis plus toute seule aujourd'hui. Je crois que c'est ça. Toute la différence, c'est quand tu sais que t'as une vraie équipe derrière toi et que du coup, si toi, t'es pas là pour gérer l'urgence, quelqu'un d'autre va la gérer. La gérer, pardon. Et voilà, je pense que c'est ça qui me permet aujourd'hui de pouvoir... Et puis aussi, j'ai appris de Margot qui elle, a cette façon de structurer son temps et qui est en capacité de se concentrer pendant plusieurs heures sur un sujet. Et du coup, je pense que par mimétisme, parce que moi, j'aime beaucoup apprendre des autres, elle m'a inspirée. Et du coup, je me suis dit, mais elle a raison. En fait, si je veux vraiment aller au bout de ce sujet-là, il faut que je sois concentrée pendant... Et puis, peut-être qu'il n'en sortira rien. Hein. Peut-être que je vais avoir l'impression d'avoir passé 5 heures sur un sujet et puis je le craquerai dans 2 mois. Mais au moins, je l'ai fait, quoi.
Ok, bon, bah, merci pour ce point organisationnel et de me l'avoir rappelé. On passe à la dernière partie en quelques minutes. C'est quoi du coup l'ambition, la vision que tu as pour les deux marques à l'avenir et puis le plan pour y arriver. Alors le plan, est-ce que tu as prévu d'autres levées, d'autres développements, des recrutements, t'en parlais tout à l'heure. Alors, voilà, vers quoi tu vas pour atteindre l'ambition que tu fixes aux deux marques?
Alors sur JeStock, on est vraiment sur un plan scalabilité, quoi. Donc c'est comment faire plus avec autant voire moins.
Voilà. Okay.
Donc ça, c'est un gros challenge et en même temps avec, comme je te l'ai dit tout à l'heure, des grosses opportunités. Donc c'est plutôt super excitant. Mm-hmm. Et sur Wearcito, on a vraiment l'ambition à assez court terme de montrer qu'on est en capacité d'avoir une boîte qui est rentable, donc d'avoir une structure, un squelette financier solide. Mmh. Et derrière, de refaire un gros tour de table, parce que, on l'a dit, on a des gros enjeux tech d'interconnexion. Moi, ma vision à long terme, c'est qu'il va falloir qu'on rajoute beaucoup de business intelligence et voire de l'intelligence artificielle pour pouvoir dessiner des réseaux logistiques qui vont pouvoir être reconfigurables en fonction des aléas climatiques, géopolitiques, etc. Et tout ça, ça demande de gérer beaucoup, beaucoup de data et d'avoir des profils hyper experts. Et puis, la logistique n'a pas de frontières, donc il faut qu'on aille en Europe.
Pas que la France, oui.
Voilà. si je devais résumer, oui, je pense que c'est vraiment sur ces trois sujets-là qu'on va travailler, en sachant que tout ça doit avoir un impact écologique majeur, parce qu'il faut juste rappeler que la logistique, c'est 8% des émissions, c'est plus que la production de fer et d'acier, c'est plus que l'élevage. Donc, on a un enjeu hyper important. Et avec la solution qu'on a développée, Wearcito, on utilise la vacance donc dans les entrepôts logistiques qui sont déjà existants. Aujourd'hui, on ne fait que chez les logisticiens, mais il faut se dire que chez les industriels aussi, il y a énormément de vacances. Donc, on s'appuie vraiment. Donc, ça permet
c'est une optimisation des mètres carrés actuels sans avoir à
artificialiser de nouveau des sols. Voilà. Juste comme ça, entre nous, Amazon, ils ont mis 1 million de mètres carrés artificialisés sur notre sol. Bon, je me dis, c'est quand même un peu idiot quand on sait le nombre de mètres carrés qui sont disponibles. On a ça. Et puis, comment est-ce qu'on va, puisqu'on a plein d'entrepôts partout sur le territoire, on va pouvoir réduire les kilomètres parcourus par les camions. On est un peu les seuls à avoir la data qui nous permet d'optimiser les flux de transport en amont, en aval, et l'emplacement des zones de stockage. Voilà. Donc c'est notre projet et c'est là-dessus qu'on travaille, avoir un impact sur l'environnement grâce à la data et
optimiser
la business intelligence.
Les tournées, les flux. Un nom international, tu disais. Donc, on sent dès le départ avec ce nom que vous ne visez pas que la France.
Bah, Warehouse et Cito. Figure-toi que c'est Deposito, c'est l'entrepôt en espagnol.
Ah, d'accord. Donc, un mix de deux origines de langue. Vous adressez déjà, justement, au-delà du territoire ?
On a déjà des clients. Oui, on a déjà 20% de clients qui sont des clients étrangers.
D'accord.
Et puis, on a déjà beaucoup de demandes sur certains pays européens.
Ok. Bon, plein de beaux chantiers pour les mois et années à venir, probablement. Merci Laure d'avoir partagé ton expérience, ton aventure entrepreneuriale.
Ben, merci à toi.
Voilà, c'est toujours intéressant d'arriver à comprendre voilà, quel était le déclic qui t'a mené à ça, comment tu fais aujourd'hui pour gérer deux boîtes. Il me reste trois questions à te poser. La première, c'est quoi la plus grosse galère que tu as rencontrée dans ce parcours et comment tu as fait pour la contrebalancer.
J'en ai rencontré des millions, hein, comme tous les entrepreneurs. Je dirais que la plus grosse galère, c'est le jour où on m'a dit que pour vendre de l'assurance, enfin en tout cas pour avoir un produit d'assurance, il fallait que j'aie un diplôme, un master 2 en commerce ou en finance.
Mmh. Okay.
Et donc il a fallu que je fasse une VAE. En plus de ma boîte et de mes trois enfants.
Ah, mais donc tu l'as fait, toi, tu ne l'avais pas partagé, c'est intéressant, tu as fait ça aussi en plus. Donc, top. Ok, très bien. Toi qui as cette expérience entrepreneuriale aujourd'hui, comment tu définis, qu'est-ce que ça veut dire pour toi entreprendre ou être entrepreneur ? Partager ça.
Savoir emmener des gens, savoir embarquer des gens, c'est... ne pas avoir peur, je crois. Aimer le challenge. Avoir envie d'aller toujours plus haut. Je dirais ça.
C'est
et rester super humble. Mmh. Voilà. Rester toujours super humble parce que c'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça qu'on grandit.
Bon, bah écoute, on prend. Merci beaucoup. Ma dernière question et après je te libère. Toi qui as vécu maintenant ce podcast, comment t'as fait parmi ton réseau, tes contacts, qui tu me recommanderais d'inviter sur ce podcast et avec qui tu pourrais me mettre en relation ?
C'est une bonne question. Il y en a plein. Il y a une personne en particulier à laquelle je pense, c'est Hakim Baka, tu le connais déjà ? C'est
non.
Le fondateur de Give.
D'accord.
C'est une plateforme.
C'est quoi comme activité ?
Alors, c'est une plateforme de dons.
D'accord.
Voilà, qui marche super bien. Il a un parcours extraordinaire et c'est vraiment humainement un entrepreneur extraordinaire. Vraiment.
Ok. Si tu peux nous mettre en relation, avec grand plaisir.
Et ben voilà, on fera ça.
Et ben super. Impec. Merci Laure.
Merci.
D'être voilà, venu jusqu'à moi, d'avoir partagé ton expérience. Merci à vous, chers auditeurs, chers auditeurs, pour votre fidélité, pour vos messages privés, vos commentaires. Voilà, c'est pour vous que chaque semaine, je partage un épisode avec un ou une entrepreneur qui vient nous raconter son aventure entrepreneuriale, ses réussites, mais aussi ses galères. Qui peut rencontrer au quotidien. Abonnez-vous, pensez à vous abonner sur les différentes plateformes audio et vidéo. Pour tous ceux qui sont plus papier que justement visionnage en ligne, je vous invite à vous procurer le livre « Comment t'as fait ?» Les rencontres d'entrepreneurs, donc cette synthèse des 80 premiers épisodes et de mes 13 années d'expérience entrepreneuriale. Ceux qui sont curieux d'aller voir le TEDx sur les rencontres dont on a parlé tout à l'heure, allez-y, c'est sur YouTube, TED Talks. Vous tapez Julien Hatton, vous allez le trouver voilà, pour vous inspirer sur comment faire des rencontres et s'ouvrir tout simplement des opportunités à la fois personnelles et professionnelles. Un grand merci à vous tous. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée et vous dire à la semaine prochaine. Bye. C'était Comment t'as fait ? Les rencontres d'entrepreneurs, le podcast pour comprendre comment celles et ceux qui entreprennent ont fait. À très vite pour de nouveaux épisodes.